18h, forum avec Christelle Demangeau. Bonsoir.
Bonsoir, c'est un classique désormais du 1er mai. Des escarmouches ont éclaté en fin d'après-midi à Zurich entre autonomistes de gauche et forces de l'ordre. Bouteilles contre balles en caoutchouc. La tradition du 1er mai se perpétue sur les bords de la Limate. Nous appellerons notre correspondante sur place. Escarmouches également à Lausanne où un fast-food a eu les vitres cassées par des manifestants anticapitalistes. Défilé beaucoup plus calme à Genève. 1500 personnes ont marché pour des revendications sur le thème des conventions collectives de travail. Tatiana Odo nous proposera son reportage. Car le 1er mai, c'est le grand jour pour les syndicalistes, la gauche et les associations. Le jour où l'on truste les podiums et les tribunes pour défendre les bas salaires et les oubliés de la croissance et pour proclamer que la lutte continue. Mais qui incarne le mieux cette défense des ouvriers? Le parti socialiste ou alors la gauche de la gauche? On en débat ce soir entre la socialiste Adam Arat et le popiste Julien Sansonance. Le prochain avion de combat suisse sera à coup sûr européen. L'américain Boeing a jeté l'éponge. Le département de la Défense regrette aujourd'hui de ne pas pouvoir évaluer plus avant le successeur du FA-18. Ce sera le seul commentaire du DDPS. Pierre-Henri Chauffat viendra nous expliquer les raisons et les conséquences de ce renoncement. Les principaux bailleurs de fonds de l'autorité palestinienne se réunissent demain à Londres pour faire le point sur les territoires occupés, des territoires occupés où les conditions de vie sont difficiles, malgré les sommes considérables débloquées par la conférence des donateurs. Notre correspondant dans les territoires palestiniens nous décrira la débrouillardise des habitants de Gaza et de Cisjordanie. La nature reprend ses droits à l'Oëche. Un incendie criminel avait ravagé plus de 200 000 arbres en 2003, on s'en souvient. 5 ans après, la végétation est toujours clairsemée, mais ces terrains ouverts et rocailleux sont un havre pour 3 espèces d'oiseaux rares. Bertrand Post de l'antenne valaisanne de la station ornithologique suisse évoquera l'installation du merle de roche, du rouge-queue à front blanc et du bruant fou. Et puis nous recevrons notre collègue Aline Virda qui publie aux éditions Labor et Fides, Là où je vais, un récit réflexion assez virulent contre la hiérarchie de l'Église catholique. Le Vatican, une église qui ne pose pas assez de questions, qui est enfermée dans des carcans. Aline Virda qui revendique sa liberté de penser, vous l'entendrez dans les dernières minutes de forum. Ce week-end de l'ascension continue comme il a commencé avec un soleil dominateur. Quelques cumulus de beau temps se développeront en montagne de l'après-midi demain. Côté température, ce sera encore mieux qu'aujourd'hui. 7 degrés au petit matin, 18 à 21 l'après-midi. Ce temps ensoleillé nous accompagnera tout au long du week-end avec un mercure de plus en plus doux. Prévision complète d'Angélique Bergerat, juste avant 19h. Et la foule s'est pressée au Salon du Livre. Cet après-midi, Philippe Reva, l'occasion justement de se pencher sur l'état de santé de l'édition romande.
Oui, combien de temps la Suisse romande pourra-t-elle conserver cette activité d'édition intense, alimentée par une diversité d'éditeurs peu en rapport avec la taille de ce petit territoire francophone? Le miracle de l'édition romande a du mal à résister, prise en tenaille entre la gigantesque production automnale des éditeurs parisiens et la disparition progressive des petites librairies indépendantes. D'ici une demi-heure environ, nous tenterons d'imaginer des pistes de survie avec 3 grands noms de cette édition romande, Marlise Pietri, Michel Moret, Vera Michalski et puis le journaliste et écrivain Christophe Galla.
Mais avant de développer ces titres, on se rend à Fribourg où la deuxième étape du Tour de Romandie vient d'arriver et c'est l'Australien Robbie McEwen qui l'a remporté, Patrick Deletro.
Et oui, et pourtant on a presque vécu une autre belle histoire aujourd'hui grâce au jeune français Rémi Di Gregorio, 22 ans, qui était parti après 4 km seulement en compagnie de l'Espagnol José Luis Arrieta et de l'Américain Ian McKissick. C'était juste après le départ de Moutier ce matin et comme de bien entendu, les équipes de sprinters ont fait l'effort pour revenir, mais à 35 km de l'arrivée, Di Gregorio a lâché ses compagnons d'échappée dans la terrible côte pavée de la Lorette à Fribourg et il a continué son effort. On espérait alors, un peu naïvement, c'est vrai quand même, le miracle possible, mais à 8 km du terme, le Français devait capituler, ça roulait beaucoup trop vite derrière. Et à ce moment-là, précisément, c'est Alexandre Mauss qui a tenté de sortir du peloton, le Valaisan attaque suicide, comme on dit, parce que les sprinters se sont donc disputés l'étape, ça roulait très très vite en fait d'étape, et c'est bien Robbie McEwen qui, comme l'an dernier, à Lucent, est venu remporter cette étape ici devant l'Italien Daniele Benati, dont l'équipe avait beaucoup beaucoup travaillé durant l'étape et qui n'a donc pas pu vraiment l'emmener dans ce sprint. Benati, coéquipier de Michael Albasini, qui lui conserve le maillot jaune avant le difficile contre-la-montre de Sion demain. Et puis à noter encore que le public était vraiment, mais vraiment très nombreux aujourd'hui, notamment en ville de Fribourg, dans la montée de la Lorette, dans toute la ville d'ailleurs, et également le long du boulevard de Pérol. Ça a été un vrai succès populaire aujourd'hui, cette étape du Tour de Romandie.
Merci Patrick Deletro. Et demain, contre-la-montre à Sion, que vous pourrez suivre évidemment sur la première. Aujourd'hui, 1er mai, jeudi de l'Ascension, mais aussi fête du travail. À Zurich, des escarmouches ont éclaté peu après 16 heures entre autonomistes de gauche et forces de l'ordre. Des manifestants ont jeté des bouteilles sur la police, qui a répliqué avec des balles en caoutchouc. Delphine Gendre, vous êtes sur place. Est-ce que la situation s'est calmée maintenant?
Oui, la situation s'est vraiment calmée, mais il aura quand même fallu plus d'une heure à la police pour maîtriser les centaines d'activistes. C'était peu après 17 heures quand les forces de l'ordre ont réussi à encercler tout le monde, toutes les personnes présentes, autant les casseurs que les simples observateurs. Ils les ont encerclés dans des ruelles autour d'Helvetia Platz afin d'éviter que la situation ne dégénère encore plus qu'elle n'avait déjà dégénéré et surtout afin de procéder à des contrôles d'identité. Mais contrairement à l'année passée, il n'y a pas eu de gros dégâts matériels, en tout cas pas d'après ce que j'ai pu voir. Il y a quand même eu des feux au milieu de la Langstrasse et vraiment des peut-être quand même quelques vitrines endommagées. Mais la situation était quand même très chaude, donc avec ces casseurs qui ont lancé des pierres et des bouteilles. Ce qu'on peut dire encore, c'est le nombre de curieux qu'il y avait cet après-midi dans le 4e arrondissement de Zurich, des curieux qui prenaient des photos avec leurs portables et aussi beaucoup de jeunes, semble-t-il, qui n'avaient pas d'autres motivations politiques, c'est-à-dire pas des extrémistes de gauche, mais qui n'étaient simplement là que pour jouer à la guérilla urbaine. Enfin, il y avait également beaucoup de policiers en civil qui se sont fondus dans la masse des manifestants et qui ont, je pense, procédé à pas mal d'arrestations depuis 16 heures.
Delphine Gendre en direct de Zurich et à Lausanne également, une manifestation anticapitaliste a dégénéré en fin d'après-midi. Les quelques 200 personnes ont d'abord défilé dans le calme, puis s'en sont pris au McDonald's de Saint-Laurent. Le fast-food a eu 3 vitres cassées. Il a dû être évacué et fermé. Les échauffourées se sont poursuivies sur la place de la Riponne où la situation est, semble-t-il, calme maintenant. Beaucoup plus calme à Genève, environ 1500 personnes ont participé au traditionnel défilé du 1er mai cet après-midi. La gauche, les syndicats et les associations qui l'ont organisé ont axé cette journée de revendications sur le thème des conventions collectives de travail. Le reportage à Genève de Tatiana Odo.
Les restructurations, les privatisations, les délocalisations, tout ça pour le pognon résistant.
Ballon et drapeau rouge, c'est le syndicat UNIA qui ouvre la marche.
Je suis secrétaire syndical responsable de l'industrie à UNIA. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'être avec les travailleurs et de participer à la manifestation qui est importante chaque année. Nous devons nous retrouver ici ensemble pour manifester notre soutien à tous les problèmes que nous avons pour les conventions collectives, notamment un des sujets que nous soulevons cette année particulièrement.
Les partis politiques ne sont pas en reste, l'extrême gauche, les Verts et les socialistes.
Liliane Marie Pasquier, bonjour. Vous êtes en tête de ce cortège socialiste avec cette pancarte, les socialistes, le cœur à gauche. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui?
C'est important pour manifester l'importance justement de maintenir, de s'engager pour les droits des travailleurs et des travailleuses, pour la paix du travail. La paix du travail, comme n'importe quelle paix, elle se construit par l'action collective.
Mais est-ce que le 1er mai a encore un impact politique?
Il a en tout cas un impact auprès des gens qui y participent. C'est-à-dire que c'est important de se rassembler parce que tout seul, on n'arrive à rien.
Uli Leyenberger, conseiller national vert. Conserver les acquis dans le monde du travail, c'est aussi un combat des Verts, ça?
Oui, certainement. Au moins, nous sommes opposés au démantèlement de ce que les travailleurs et leurs organisations ont pu obtenir. Et il y a la situation chez nous, mais il y a aussi la situation mondiale. Si vous pensez aux révoltes de la faim, il faut aussi penser au changement climatique provoqué par une production insensée. Oui, donc le 1er mai est aussi important pour les Verts.
Jean-Luc Ardite, vous portez le zeppelin du Parti du Travail, c'est ça?
C'est une très belle montgolfière de 6 mètres carrés, et vraiment 6 mètres cubes, pardon. Et c'est vraiment quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire.
Ce 1er mai tombe également sur l'Ascension. Pourquoi avoir voulu maintenir le cortège?
Parce que c'était quelque chose vraiment où on a dû se battre pour avoir ce cortège, pour accéder vraiment aux rues de Genève, se réapproprier l'espace public. Et on trouvait vraiment nécessaire et obligatoire vraiment d'être là le 1er mai. Parce que si on arrêtait une année et après pour remettre en route, c'est énormément compliqué.
Quitte à ce qu'il y ait moins de monde?
Quitte à ce qu'il y ait moins de monde, mais au moins on montre qu'on est toujours présent. Et comme on le voit aujourd'hui, on pensait qu'il y aurait moins de monde. Et on voit que le cortège est à peu près similaire à celui de l'année passée, malgré les fêtes. Donc les gens se mobilisent.
Les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Résistance.
Voilà, c'était le reportage à Genève de Tatiana Odo. Alors, cette fête du travail se joue cette année sur fond de crise alimentaire dans le monde. De Moscou à Jakarta, de Manille à Tokyo, les travailleurs ont exigé des augmentations de salaire pour contrebalancer la montée des prix des denrées alimentaires, Esther Coco.
Le pain aux affamés, ce slogan qui résonne comme sorti d'un autre âge, a été entendu aujourd'hui à Moscou, où entre 2000 et 4000 communistes ont défilé alors que le contrôle des prix du pain, du lait et de l'huile vient d'être levé. Aux Philippines, le mouvement du 1er mai s'est aussi emparé de cette thématique brûlante. Les travailleurs ont faim et réclament des augmentations de salaire, un contrôle des prix et des réformes, a déclaré son responsable, qui a réclamé la démission de la présidente philippine, Gloria Arroyo, accusée de ne pas avoir agi contre la hausse du prix du riz. Dans les rues de Jakarta, quelques 10 000 Indonésiens ont défilé, alors que l'inflation atteint les 8% et que le pays compte 40 millions de pauvres sur 234 millions d'habitants. La Confédération syndicale internationale, le plus grand syndicat mondial, a d'ailleurs profité de cette journée du 1er mai pour rappeler que 100 millions de personnes de plus que l'an dernier ne mangent pas à leur faim.
Et par crainte de pénurie, justement, le Népal vient d'annoncer aujourd'hui l'interdiction des exportations de céréales.
Oui, le porte-parole du ministère de l'Agriculture népalais a justifié cette mesure en disant que la production intérieure du Népal était insuffisante. Dans ce pays, considéré d'ailleurs comme l'un des plus pauvres au monde, le prix du riz a bondi de plus de 30%. Le sac de 30 kilos coûtant désormais 23 francs, alors qu'un tiers de la population vit avec moins de 1 franc par jour. Une mesure prise alors que le président de la Banque mondiale, Robert Solik, et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ont justement demandé mardi de ne pas recourir à l'interdiction des exportations de céréales, car ils estiment que cette stratégie contribue à alimenter la flambée des prix.
Et après l'ONU, la Banque mondiale et l'OMC, cette semaine à Berne, la Banque asiatique de développement se réunit ce week-end à Madrid.
Une assemblée générale de ses gouverneurs qui se déroule sur fond de polémique, car cette banque est aujourd'hui accusée, tout comme la Banque mondiale d'ailleurs, d'avoir encouragé l'économie de marché sans se soucier de ses conséquences. Or, ce que certains ont qualifié de miracle de l'économie asiatique, qui a vu de nombreux pays délaisser leur agriculture pour se plonger dans l'ère industrielle, tourne aujourd'hui au cauchemar pour le milliard de pauvres considérés comme très affectés par l'envolée des prix des aliments. La Banque asiatique de développement a d'ores et déjà annoncé qu'elle se joindra à l'effort des Nations unies pour combattre la flambée des prix et mettre en place un commerce mondial plus équitable.
Et puis 1er mai toujours avec cette question, qui incarne au fond le mieux la défense des bas salaires, le PS ou alors la gauche de la gauche? Débat entre la socialiste Adamara et le popiste Julien Sansonnan, ce sera tout à l'heure vers 18h40. Le choix des militaires suisses pour un nouvel avion de combat se réduit. L'américain Boeing a jeté l'éponge. L'avionneur en a informé hier en fin de journée Arma Suisse, le secteur armement du département de la Défense. Le DDPS regrette de ne pas pouvoir évaluer plus avant le Super Hornet, le successeur du FA-18. Mais il se refuse à tout autre commentaire. Le prochain avion de combat suisse sera donc à coup sûr européen, Pierre Anchoffa.
Oui, car il reste désormais en lice le Gripen suédois, le Rafale français et le Fighter du consortium européen EADS. Trois appareils qui seront testés en Suisse durant 3 semaines par les militaires suisses cet été, si toutefois aucun des fabricants ne jette l'éponge à l'image des Américains avant de déposer son offre détaillée, des offres attendues ce printemps encore. Il faut le rappeler, le contrat porte sur 2,2 milliards de francs et vise à remplacer la flotte de 54 Tiger qui seront mis à la retraite après plus de 30 ans de vol. Il s'agit d'acquérir entre 20 et 30 nouveaux appareils pour assurer la défense de l'espace aérien suisse. À ce stade, difficile de dire qui tient la corde. Un militaire le souligne, le Rafale de Dassault est clairement le meilleur avion. L'Eurofighter a le gros avantage d'être le plus européen des trois, puisqu'il doit équiper les armées britanniques, allemandes et italiennes notamment. Enfin, le Gripen suédois présente le meilleur rapport qualité-prix, ce qui pourrait être assez déterminant, car ne l'oublions pas, il faudra sans doute passer devant le peuple pour l'acquisition de cet appareil, suite à l'initiative populaire contre tout nouvel avion de combat, lancé à nouveau par le groupe pour une Suisse sans armée.
Donc aujourd'hui, Boeing renonce. Comment on peut expliquer ce renoncement des Américains?
C'est une bonne question, en vérité, qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ce stade, en tout cas officielle. Boeing n'a pas voulu justifier sa décision de renoncer à son offre. En revanche, pour plusieurs connaisseurs du dossier, ce retrait n'est pas vraiment une surprise. À la différence des trois candidats européens, les Américains ne donnaient pas vraiment l'impression d'y croire. Ils sont les seuls à ne pas avoir développé de véritable lobbying, alors que certains, comme le français Dassault par exemple, ont déjà ouvert une agence à Berne pour suivre de près ce dossier. dossier. Et puis, les Américains ont sans doute senti qu'ils avaient peu de chances d'arracher ce contrat. D'abord, son appareil, s'il porte le même nom, le FA-18, que celui déjà en possession des pilotes suisses, eh bien, il n'a pas grand-chose à voir avec lui. L'argument des synergies ne tient donc pas la route. Et puis, politiquement, il paraît cette fois évident qu'il faudra acheter européen. Cela retirera au moins un argument aux opposants de l'avion pour la campagne de votation. La dépendance de l'armée suisse des Américains n'est en effet pas très populaire.
Merci Pierre Anchefin. Les principaux bailleurs de fonds de l'autorité palestinienne se réunissent demain à Londres pour faire le point sur les territoires occupés. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice est attendue. Elle aura des discussions avec ses principaux homologues sur les négociations de paix au Proche-Orient. Des négociations qui piétinent. Cette réunion risque donc de ne déboucher sur rien de bien concret. Benjamin Barthes, vous êtes notre correspondant dans les territoires palestiniens. Alors l'aide versée à la Cisjordanie et à Gaza n'a jamais été aussi importante et pourtant l'économie ne redémarre pas. Comment ça s'explique ce paradoxe ?
Oui, effectivement, c'est tout le paradoxe de la région, tout le paradoxe de la situation palestinienne. Il faut se rappeler qu'au mois de décembre dernier, lors de la conférence de Paris des donateurs, la somme qui avait été promise aux Palestiniens avait atteint 7,7 milliards de dollars sur 3 ans. C'était un record dans l'histoire des relations entre la communauté internationale et la Palestine. Le problème, c'est que cette somme qui a commencé à être débloquée n'a rien changé sur le terrain. Un rapport de la Banque mondiale est tombé il y a quelques jours qui fait justement ce constat d'échec. La pauvreté dans la bande de Gaza est toujours très très haute, environ 70%. 70% de la population, c'est-à-dire qui vit avec moins de 2 dollars par personne et par jour. La croissance économique est toujours nulle, c'est-à-dire que l'argent qui a été investi par la communauté internationale dans des projets qui a été investi pour soutenir le budget de l'autorité palestinienne n'a pas relancé la demande, n'a pas relancé l'économie. Et donc, pour l'instant, c'est toujours la même stagnation économique. Et la raison numéro un pointée par les experts de la Banque mondiale, ce sont les checkpoints, les barrages routiers israéliens qui sont disséminés dans l'ensemble de la Cisjordanie, non seulement sur la frontière avec Israël, mais à l'intérieur de la Cisjordanie, entre les villes et les villes, entre les villes et les villages. Il y a près de 500 obstacles routiers qui, comme ça, démantèlent littéralement au quotidien les échanges commerciaux et donc l'économie palestinienne.
Benjamin Barthes, on vit, on habite à Gaza. Comment les gens font pour survivre dans des conditions pareilles ?
Écoutez, Gaza est l'empire de la débrouille. Vous l'avez dit, il y a un blocus depuis un an qui fait que les rayons des épiceries sont vides, qu'il y a des files d'attente devant les boulangeries, que la population passe des soirées dans le noir du fait des coupures d'électricité. Les usines et les ateliers à 95% sont fermés car les matières premières ne rentrent plus. Et maintenant, la dernière privation en date auquel les Palestiniens de Gaza sont soumis, c'est l'essence. Israël a fermé le robinet quasiment. L'essence ne rentre plus qu'au goutte à goutte. Et du coup, la quasi-totalité des voitures sont désormais garées, ne circulent plus. Mais alors, les Palestiniens, là-dessus, ont un talent terrible, talent d'une part pour ce qui est la solidarité financière, l'argent, le peu d'argent qui rentre encore à Gaza, c'est les salaires de l'autorité palestinienne, donc les fonctionnaires qui sont assez nombreux en général et qui sont très nombreux même dans la bande de Gaza, évidemment reversent une partie de leur maigre salaire à l'ensemble de leur famille. Ça c'est une des raisons. L'autre raison qui fait que la population tient malgré tout, c'est le marché noir. Les produits rentrent notamment par les tunnels qui sont creusés au niveau de la ville de Rafah, entre le sud de la bande de Gaza et la ville de Rafah en Égypte, dans le Sinaï. Et puis la troisième raison qui permet aux Palestiniens de tenir vaille que vaille, c'est la débrouille, le système D. Et alors notamment, il y a un exemple qui est assez éloquent. Je vous ai parlé de cette pénurie d'essence. Eh bien, les Palestiniens ont d'abord transformé le système d'alimentation de leur voiture de l'essence au gaz. Ils ont installé des bouteilles de gaz à l'arrière de leur voiture. Certains se sont mis aux carrioles tirées par des ânes. Et puis alors, la dernière solution actuellement, c'est de couper le diesel, de mélanger le diesel avec de l'huile de friture de falafel. Vous savez, le falafel, ce sont ces boulettes de fèves frites que les Palestiniens aiment beaucoup manger. Eh bien, ils mélangent l'huile de friture avec le diesel et ça marche. Les voitures roulent pour quelques mois, évidemment le moteur ne supporte pas bien, mais ça tourne.
Mais dans ces conditions, Benjamin Barthes, effectivement tragique, hein, pour, dans la bande de Gaza, il reste un motif d'espoir pour la population. On parlait d'un cessez-le-feu, un plan de cessez-le-feu égyptien qui serait accepté par le Hamas pour exiger la levée du blocus israélien. Il y a encore vraiment des signes d'espoir?
Mais écoutez, oui, il y a effectivement un début, une lueur de possibilité d'entrevoir un futur un peu meilleur pour Gaza. Cette lueur, c'est, vous l'avez dit, l'acceptation par le Hamas d'un plan de cessez-le-feu élaboré par l'Égypte. Le problème, c'est que il y a encore beaucoup d'hypothèques sur ce plan de cessez-le-feu. La première, c'est qu'Israël n'a pas donné encore son accord à ce cessez-le-feu, à cette trêve. Il est probable que les autorités israéliennes et que l'armée notamment finissent par se rallier à ce plan. Dans ce cas, il faudra encore le mettre en application sur le terrain. Et alors notamment, ce plan suppose, contre l'arrêt des violences, une levée du blocus. C'est ça l'espoir numéro un des Palestiniens. Le problème, c'est que pour lever le blocus, il va falloir donc réouvrir les fameux points de passage entre la bande de Gaza et Israël et la bande de Gaza et l'Égypte. Et tous ces points de passage, ces réouvertures vont faire l'objet à coup sûr de très longues négociations techniques, sécuritaires, entre Israël et l'Égypte, Israël et la communauté internationale, parce qu'évidemment, Israël ne veut pas parler au Hamas. Donc ça va être très très long, et dans l'hypothèse où des accords techniques, une réouverture de ces points de passage étaient mis en place, il faudrait encore que la trêve, que le cessez-le-feu tienne. Et ça, c'est évidemment le risque numéro un, que à la moindre provocation, au moindre dérapage d'un côté comme de l'autre, le cycle infernal, violence, représailles, ne se réenclenche, et que donc tout le patient édifice monté par les Égyptiens ne s'effondre à nouveau.
Benjamin Barthes à Ramallah.
Forum, Christelle Domingeau, Philippe Revin.
On se souvient de cet incendie criminel qui avait ravagé 310 hectares et plus de 200 000 arbres au-dessus de l'Oëche en août 2003. 5 ans après, la végétation est toujours rare, mais ces terrains ouverts et rocailleux plaisent à de nouveaux habitants. 3 nouvelles espèces d'oiseaux, le merle de roche, le rouge-queue à front blanc et le bruant fou, ont installé leur quartier. Bertrand Poss, vous qui êtes collaborateur à l'antenne valaisanne de la station ornithologique suisse, j'imagine que cette installation doit vous réjouir. Est-ce qu'ils sont rares, ces oiseaux-là?
Ah, bien sûr que ça nous réjouit. Ces 3 espèces sont assez peu fréquentes en Suisse. Deux d'entre elles sont en diminution, c'est-à-dire le rouge-queue à front blanc et le monticole de roche, le merle de roche. Donc ça nous réjouit beaucoup, oui.
Mais Bertrand Poss, tout le monde se souvient de cet incendie assez dramatique à l'Oëche en 2003, hein, cette pinède qui avait brûlé quasiment entièrement sur le coteau. Mais au final, on peut dire aujourd'hui le résultat était plutôt positif pour la biodiversité?
Oui, c'est clair que c'est des grandes catastrophes qui donnent un coup de sac un petit peu. Hein. On rase ce qui existait et on part à zéro. Et puis il y a des espèces qui sont aussi tant animales que végétales finalement, qui sont faites pour reprendre à zéro, pour recoloniser des milieux. En l'occurrence, ces oiseaux aiment les terrains plutôt ouverts avec des perchoirs. Les arbres secs calcinés constituent ces perchoirs. Et puis les terrains ouverts, le sol nu ou peu enherbé, c'est d'excellents territoires de chasse pour eux.
Ça vous a surpris, Bertrand Poss, de voir réapparaître ou apparaître ces oiseaux rares en Suisse sur ce terrain?
Mais quand même, oui, parce que on n'a jamais eu d'exemple, en tout cas récemment, aussi conséquent, des incendies aussi importants. Et puis, c'est un petit peu par hasard, finalement, qu'en passant par là, qu'on a réalisé que ces espèces étaient présentes. Et c'est pour cela qu'on a lancé un petit peu un suivi de cette surface pour essayer de savoir combien il y en avait et poursuivre l'évolution au fil des ans.
On pourrait aller au bout de cette logique, Bertrand Poss, et se dire que finalement, on laisse beaucoup trop de place à la forêt en Suisse. On se souvient des polémiques sur la mort des forêts dans les années 80. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Il faudrait, si ce n'est brûler, du moins couper des arbres en Suisse sur les coteaux pour favoriser ce genre de réapparition de la biodiversité.
On sait que la forêt augmente en Suisse. La surface forestière augmente régulièrement, et notamment pour des problèmes de déprise agricole ou des terrains qui étaient autrefois pâturés, qui ne le sont plus, et puis la forêt reprend gentiment ses droits. Alors effectivement, on arrive avec un peu une emprise plus importante de la forêt, un manque de diversité de milieux. Et puis c'est clair que certaines espèces souffrent de cette absence de milieux qui leur convenait, ou qui leur convient toujours, mais qui est devenu plus rare.
Mmh. On citait ces trois oiseaux rares, le merle de roche, le rouge-queue à front blanc, le bruant fou. Alors où vont-ils aller quand la forêt a repris ses droits en dessus de l'Oëche? Ça veut dire que vous allez laisser faire la nature, ils vont à nouveau disparaître de cet endroit-là?
Alors oui, ça va se faire maintenant sur l'échelle de plusieurs années ou décennies. Hein. Ça dépendra du substrat, parce qu'il y a des endroits très rocheux dans cette forêt et qui vont sans doute se faire coloniser moins rapidement par la végétation. Maintenant, la reprise est essentiellement au niveau des herbacées et des buissons. Les arbres sont encore bien loin d'avoir poussé, donc on verra finalement le temps qu'il faudra pour que la forêt reprenne vraiment ses droits, mais c'est clair qu'à terme, on s'attend à ce que ces trois espèces qui aiment bien les milieux ouverts perdent gentiment du terrain.
D'ici là, vous allez lancer une étude universitaire sur ce terrain, Bertrand Posse?
Alors, il y aura peut-être une étude lancée par le département de la biologie de la conservation de l'université de Berne qui concernera le merle de roche si nous en trouvons encore suffisamment, c'est-à-dire s'il y a un nombre de coupes suffisant. Et cette étude devrait essayer de mieux comprendre, de mieux connaître les exigences de cette espèce pour ensuite essayer de lui venir en aide, de la protéger pas seulement sur la forêt de l'Oëche, mais ailleurs dans son aire de répartition.
Merci Bertrand Posse, collaborateur à l'antenne valaisanne de la station ornithologique suisse. Bonne soirée.
Merci à vous.
La Fédération suisse des communautés israélites a élu aujourd'hui à sa présidence l'avocat zurichois Herbert Winter. Il succède à Alfred Donat. Dans une résolution votée à l'unanimité, les délégués de la Fédération suisse des communautés israélites ont également fermement condamné la visite de Micheline Calmiret en Iran à la mi-mars. Ils accusent la conseillère fédérale d'avoir apporté un soutien moral et politique inespéré au président iranien Mahmoud Ahmadinejad, qui a appelé à plusieurs reprises à la destruction d'Israël. 18h26, le Salon du Livre se déroule cette fin de semaine à Genève. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler notre rendez-vous demain pour un forum spécial en direct du Salon. Mais ce soir, on s'interroge déjà sur l'état de santé de l'édition romande. De nombreux livres sortent chaque année à l'usage du 1,5 million de romans. Mais l'édition romande fait-elle le poids face à la concurrence et pourra-t-elle continuer longtemps à publier autant de livres? On en débat ce soir avec trois éditeurs et un journaliste écrivain. Le journaliste écrivain, c'est vous, Christophe Gala. Bonsoir.
Bonsoir.
Également avec nous Vera Michalski, fondatrice des éditions Noir et Blanc. Bonsoir. Marlis Pietri des éditions Zoé, ainsi que Michel Moret des éditions De l'Air. Alors Christophe Gala, journaliste, écrivain, vous utilisez les éditions, vous en avez besoin. Est-ce qu'à votre avis, les éditions romandes sont assez fortes face à la concurrence?
Je pense qu'elles sont pas assez fortes en termes de pouvoir, de puissance de feu, comme diraient les militaires, mais je pense qu'elle est assez forte en pouvoir de singularisation, en pouvoir de répliquer par de la littérature exigeante et fine au grand matraquage publicateur hexagonaux.
Alors, est-ce que Marlis Pietri, peut-être, vous êtes la patronne des éditions Zoé depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez l'impression que l'édition romande peut continuer encore longtemps à produire cette diversité, à garder cette diversité de petites maisons d'édition dans ce tout petit territoire francophone?
Écoutez, la dramatisation a toujours existé sur la littérature romande. Je crois que c'est un petit peu comme ça. Ceux qui se sentent en marge se croient toujours complètement menacés. Moi, je suis absolument pas négative. Je vois d'ailleurs des tas de petites maisons qui se créent, comme il y en a eu à l'époque où on a commencé, il y a une trentaine d'années. Donc, c'est la preuve qu'il y a ici, en Suisse romande, un véritable intérêt, des véritables passions pour la littérature et pour le livre. Maintenant que nous, maisons d'édition, qui sommes des maisons déjà très professionnelles, ayons des difficultés pour le rester aussi professionnel, ça c'est certain, mais je crois qu'il y a beaucoup de solutions.
Parce que c'est vrai que plusieurs petites maisons d'édition naissent ici ou là, hein, en Suisse romande, c'est plutôt réjouissant, mais parfois ce sont des activités accessoires. Alors Michel Moret, vous êtes le patron des éditions De l'Air, est-ce qu'il y a un danger finalement que ça devienne une activité qui ne suffit plus à faire vivre une vraie maison d'édition telle que la vôtre?
Non, ça a toujours été difficile et ça le sera toujours, peu importe la conjoncture. Le tout, c'est évidemment de s'adapter. Le souci peut-être de l'édition romande globalement, c'est de maintenir les acquis, car c'est vrai que depuis une trentaine d'années, il y a eu de nombreuses maisons d'édition romandes qui ont vu le jour ici et qui vivent, d'autres vivotent, d'autres survivent, mais enfin, elles sont là. Il y a un catalogue qui, des catalogues importants, il y a des éditeurs qui s'imposent. Donc, le tout, c'est de maintenir l'acquis et de toujours s'adapter à la technologie, aux nouvelles méthodes de commercialisation. Car l'arbitre actuel peut-être sur le marché du livre, comme dans le cinéma et dans d'autres secteurs ou les produits alimentaires, c'est souvent la distribution.
Mais Michel Moret, est-ce qu'on peut dire dans une certaine mesure que l'édition romande est une édition sous perfusion? Vous recevez des aides de la Confédération, vous dépendez beaucoup de cette aide-là, notamment pour les premiers romans?
Oui, mais proportionnellement, on ne reçoit pas plus d'aide que Gallimard pour la collection de la Pléiade, en fait. Il y a une aide à l'édition qui est nécessaire parce que le livre n'est pas un produit comme les autres et il y a beaucoup d'investissements à long terme. Mais de dire qu'elle est sous perfusion, je ne crois pas. Mais il y a, c'est un défi constant qu'on doit relever et peut-être dans une minorité linguistique comme la Suisse romande, il faut un peu plus de vigilance et maintenir un certain état d'esprit, sinon les choses s'en vont plus rapidement.
Gra Michalski, vous partagez cet optimisme? Vous êtes notamment éditrice de Buchet et Chastel, Noir sur Blanc, à cheval entre la France, la Suisse et la Pologne. Vous pensez que le tableau est plus ou moins rose?
Bon, je ne pense pas que le tableau soit très rose. Mais puisqu'on parle de l'édition romande, nous, on est établi en Suisse romande. On a commencé là il y a 10 ans, donc on est relativement plus jeune que mes deux confrères. Et on fait pas vraiment de littérature romande, sauf que là, par exemple, cette année, on a publié un auteur qui vit à Fribourg, mais qui raconte son destin polonais. Donc on voit bien que quand on publie des auteurs qui sont implantés ici, c'est plus facile de les diffuser et de les vendre. Mais sinon, c'est pas facile du tout avec la littérature exigeante qu'on veut faire d'exister sur le marché tel qu'il est aujourd'hui.
Un marché qui est relativement petit au niveau de la Suisse romande. Hein. On publie beaucoup de livres comparativement à la taille de ce petit bout de pays. Christophe Gala, est-ce qu'on produit trop en Suisse romande? C'est une question un peu provocatrice, mais finalement, est-ce que les éditeurs romands produisent trop et au détriment de la qualité?
Non, ça je pense pas. Je pense que les éditeurs romands sont très soucieux d'exigences, probablement plus que d'autres éditeurs français, justement, qui répondent aux difficultés économiques par une production pléthorique. Par contre, ce qu'on pourrait tout de même dire ou regretter à ce moment de la conversation, c'est que autrefois, il n'y a peut-être pas si longtemps, il y avait une alliance assez solide entre les critiques littéraires et les éditeurs. C'est-à-dire que les critiques littéraires étaient vraiment porteurs d'un souci de qualité qui pouvait répondre à un souci de qualité des éditeurs. Ce qui limitait d'ailleurs peut-être la pléthore aussi dont vous parlez. Or maintenant, la critique littéraire a disparu, le périmètre dévolu dans les pages culturelles des journaux à la littérature a rétréci, y compris dans des grands journaux français comme Libération ou Le Monde. Et les critiques sont souvent eux-mêmes l'objet de sortes de contextualisation, comme ça dit, des pressions qui leur font évoquer plutôt des livres qui marchent fort plutôt qu'aux livres, que des livres singuliers, etc. Et là, il y a peut-être une sorte de partenariat avec les éditeurs qui a sombré un peu et qui rend peut-être la solitude des éditeurs plus grande.
Marlies Pietri, comment vous faites, vous, pour faire lire vos livres? Quel passeur, comment vous faites pour vous faire entendre par ces passeurs de livres dont parle Christophe Gala?
Écoutez, d'abord, je dois dire que si j'avais pas le marché français, j'aurais arrêté parce que j'aurais été démoralisée, j'aurais pas pu obtenir les écrivains auxquels je tenais. Hein. Ensuite, c'est vrai qu'en France, il y a une situation un peu différente parce qu'on valorise l'édition, on valorise la littérature. Disons, ça, c'est dans les discours. Hein. Ça veut pas dire que dans la réalité quotidienne de la diffusion et de la critique, on arrive vraiment à faire sa place. Mais il y a comme ça une valorisation du vrai travail éditorial et qui est fait aussi bien en France que dans les régions. Alors en Suisse, la seule chose qui me déçoit un peu maintenant, c'est le ton d'abord de dramatisation exagérée, et puis le fait que certains médias ne fassent absolument plus attention à ce que nous faisons et que l'on parle toujours de chiffres, de quantité de ventes. On entend même parler d'une aide maintenant au livre qui serait le mieux vendu. Enfin, on on ne raisonne plus en termes de qualité et en termes d'engagement littéraire.
Michel Moret, ça vous fait aussi peur? C'est vrai qu'on avait parlé récemment sur le système du cinéma suisse, le système Bido, hein, d'aider les livres comme les films qui auraient le plus de succès. Vous voyez cette évolution-là?
Oui, il y a une tendance. Ça provient de, disons, des nouveaux technocrates, de pousser ce qui n'a pas besoin de vendre, de pousser ce qui n'a pas besoin de soutien. Je pense que c'est, personnellement, je trouve cela un peu ridicule, mais tout cela mérite examen. Mais j'avais lu une brochure, par exemple, sur le système norvégien qui faisait exactement le contraire. À la fin de l'année, il y a une réunion et tous les livres méritants qui n'ont pas été salués par la critique reçoivent une prime de qualité et l'édition est aidée de cette manière-là. L'éditeur prend d'abord le risque et ensuite il reçoit une prime de qualité. Et ce qui n'a pas besoin d'être soutenu, parce que ça correspond à l'ère du temps, eh bien, n'est pas subventionné. Personnellement, ça me semble plus logique.
Mais est-ce que, dans cette hypothèse, Michel Moret, vous auriez beaucoup de livres subventionnés? Est-ce que vous faites des gros tirages? Comment ça se passe?
Non, on ne fait pas des gros tirages. C'est vrai que les tirages ont diminué, cela dans l'édition en général. Nos tirages varient entre 500 et 5000 exemplaires, mais la moyenne, c'est 1000-1500, hein, sauf cas particulier. Il y a toujours un titre par année où on tire à 4-5000 et qu'on doit rééditer, mais ce sont les exceptions qui confirment la règle, hein. Autrement, cela reste quand même assez difficile et disons que je crois que nous allons dans une direction où de la starification, c'est-à-dire que l'auteur qui se vendait à 3000 exemplaires jadis aurait tendance à se vendre à 300 exemplaires maintenant, et l'auteur qui se vendait à 50 000 exemplaires se vend peut-être à 400 000 maintenant. C'est ça un petit peu la tendance du marché. C'est la même chose avec les cachets des stars de cinéma. C'est une orientation de la culture d'aujourd'hui due à la marchandisation culturelle outrancière.
Mais Michel Moret, lorsqu'on publie des auteurs qui font 500 exemplaires, est-ce qu'on est encore dans un métier d'édition commerciale ou est-ce qu'on est déjà de l'autre côté dans une sorte d'œuvre de soutien artistique, altruiste?
Bien oui, raison de plus, justement. Je pense que de nombreux auteurs, je pense à Samuel Beckett, Saint John Perse, etc., qui, même Saint John Perse, l'année où il a eu le prix Nobel, n'a pas atteint les 100 exemplaires. Donc, la littérature est un secteur particulier, et c'est la même chose dans le domaine de l'art. Vous prenez la valeur d'un tableau à la... Le jour où le peintre sort son tableau et la valeur 50 ans plus tard, il y a toujours ce décalage. Et dans le monde de la littérature et dans le monde culturel en général, on doit vivre avec ce décalage.
Vera Michalski, vous êtes proche de ce genre de préoccupation quand vous regardez avec votre regard un peu plus externe, hein, cette situation difficile de la Suisse romande?
La situation, elle n'est pas uniquement difficile en Suisse romande. Je pense que pour l'édition de qualité, elle est difficile partout. Et donc moi, ce que je vois, c'est que nous, un peu comme Marlies Pietri, on tire les livres pour aussi les vendre en France. Sinon, ça serait impossible sur certains auteurs, notamment polonais, que nous faisons. Et c'est certain que sur certains livres, on ne s'y retrouve pas du tout. Mais bon, c'est comme toujours dans l'édition. Il faut que sur d'autres livres, on arrive à s'y retrouver pour tirer l'ensemble de l'activité, sinon c'est impossible.
Mais Marlies Pietri, vous le disiez, vous travaillez sur France, sinon vous n'y arriveriez pas. On a l'impression que de plus en plus d'auteurs romans publient à Paris aujourd'hui. Comment on explique ça? C'est Paris qui est plus ouvert? C'est parce qu'on produit plus à Paris, donc on accueille plus d'écrivains des régions? Ou alors c'est finalement les romans qui préfèrent être édités chez le grand frère parisien?
Oh, écoutez, il est évident que les écrivains préfèrent une maison avec une diffusion plus large. Mais quand j'ai dit que nous devions absolument avoir une diffusion en France, c'est parce que on ne peut pas publier Robert Walser ou avoir des livres de Nicolas Bouvier si on ne peut pas le faire sortir des frontières. Alors, moi, j'estime que si on vise vraiment une certaine qualité, on est obligé d'essayer avec tous les moyens possibles et de faire reconnaître ici en Suisse que nous sommes des professionnels, qu'il faut nous aider en tant que professionnels. Nous ne sommes pas du tout sous perfusion, même probablement moins que beaucoup de petits éditeurs français. Simplement, nous sommes des éditeurs à part entière. Alors, il y a des institutions qui nous reconnaissent comme ça. En tout cas, à Genève, il y a une tendance maintenant vraiment à reconnaître les éditeurs professionnels. Voilà, j'aimerais bien qu'on entende ça dans l'ensemble du pays.
Alors, Christophe Gallat, aujourd'hui, lorsque vous entendez ces éditeurs qui se dévouent corps et âme pour leurs auteurs, qui en vendent 500 exemplaires, c'est vraiment, ça vous arrache les larmes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je trouve que c'est très très bien. Je trouve qu'il y a à peu près, s'ils ne pouvaient faire que ça, ça serait parfait, parce qu'effectivement, autrement, c'est un peu le grand bal des grandes ventes. Je trouve que ce qu'évoquait Michel Moret tout à l'heure en parlant de la starification des écrivains, c'est tout à fait juste et ça s'inscrit parfaitement dans une société qui récompense ce qui est déjà performant, qui salue ce qui est déjà visible et qui perd parfois ou qui court le risque de perdre la compétence d'aller dénicher des œuvres singulières qui sont généralement de la plus grande densité artistique. Jean-Claire, le critique plasticien parisien un peu provocateur, disait que avec les arts, nous avons passé du culte à ensuite la culture et aujourd'hui au culturel. C'est vraiment une industrialisation progressive au cours de laquelle on a perdu le sacré. Eh bien, si les 500 exemplaires sont dépositaires du sacré, c'est à peu près que ça à saluer.
500 exemplaires qu'il faut ensuite placer sur des rayons. Michel Moret, on le dit, les petites librairies disparaissent. Aujourd'hui, de plus en plus, la diffusion est concentrée dans des mains de grands groupes qu'on ne va pas citer ici. Comment vous faites pour exister sur les présentoirs de ces énormes machines que peuvent être ces grands distributeurs?
Bon, disons qu'en Suisse romande, il n'y a pas de problème. La situation, je dirais que la distribution et la diffusion est vraiment au service des éditeurs et les libraires romands restent quand même attentifs à la production romande. Bien sûr, on souhaite toujours tous davantage et les auteurs aussi, mais d'une manière générale, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En ce qui concerne l'exportation, évidemment que là, c'est plus difficile. Il faut trouver le bon créneau, avoir le bon contrat de diffusion et ensuite cela permet de déterminer une politique de production adéquate et plus ambitieuse. Voilà, il faut l'autre possibilité, c'est la coédition ou alors faire un coup tout à fait à part. On vient d'en faire un avec une première mondiale avec le Coran en édition bilingue. Selon l'ordre, pour la première fois, selon l'ordre chronologique, et c'est notre Harry Potter, qu'en fait, c'est un coup, mais complètement isolé et peut-être en dehors de notre ligne éditoriale, mais c'est ce qui va nous faire souffler pendant une année ou deux.
On termine donc sur une note optimiste. Marlies Pietri, vous disiez votre optimisme, au début de ce débat, mais les grands éditeurs romans qu'on connaît, l'âge d'homme, Dimitrievitch, vous-même, Michel Moret, ma foi, vous allez arriver à l'âge un jour où il faudra forcément passer le flambeau. Est-ce que vous voyez des successeurs capables de vous succéder et de s'engager autant dans une maison d'édition dans le territoire roman?
Mais certainement. Ce qui compte, c'est que le catalogue soit intéressant, que les gens s'intéressent aux auteurs qu'on publie. Moi, je me fais strictement aucun souci tant que je vois que je peux continuer la construction cohérente du catalogue, enfin maintenir les auteurs que j'ai et en découvrir de nouveaux. Nous en avons deux nouveaux depuis 2 ans qui sont des jeunes, qui sont tout à fait la relève. Donc je pense que tous les vrais éditeurs littéraires, ils sont dans une lutte continuelle, mais je ne suis pas négative du tout pour l'avenir, pas plus qu'un autre éditeur équivalent en France.
Voilà, on s'interrogeait sur l'état de santé de l'édition romande, constat plutôt optimiste des éditeurs qui étaient avec nous ce soir, Vera Michalski, fondatrice des éditions Noir et Blanc, Marlies Pietri des éditions Zoé et Michel Moret des éditions de l'Air, et également avec nous Christophe Gallat, journaliste et écrivain. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Et Forum sera en direct et en public du Salon du Livre demain. Ce sera une édition spéciale, donc on reparlera de livres et d'éditions, édition spéciale de Forum demain soir. Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail et ses traditionnels discours revendicatifs partout à travers le monde, des revendications pour des salaires plus décents, de meilleures conditions de travail. Par exemple, le vice-président de l'Union syndicale suisse, Jean-Claude Reinwald, qui a appelé aujourd'hui les salariés à la résistance. Alors c'est le jour où les syndicalistes, les élus socialistes ou de gauche alternative trustent les podiums et les tribunes pour les discours. Mais qui incarne au mieux la défense des bas salaires? On en débat ce soir avec Adam Ara. Bonsoir.
Bonsoir.
Conseillère nationale socialiste vaudoise, également avec nous Julien Sansonance, bonsoir.
Bonsoir.
Du POP vaudois. Alors Adam Ara, est-ce qu'aujourd'hui encore le Parti socialiste est le mieux armé pour défendre les intérêts des travailleurs?
Je pense que le Parti socialiste, comme le POP, comme les syndicats, comme l'extrême gauche, sont tous des partenaires et des gens habilités à pouvoir faire être les représentants des travailleurs, parce que je crois que s'il n'y avait plus toutes ces forces de gauche, on laisserait le pays à la droite et qui ferait vraiment tout ce qu'il voudrait, n'importe quoi.
Madame Ara, le discours du grand soir, la lutte des classes. J'imagine par exemple Simonetta Sommaruga entendre tous ces discours du 1er mai, ça ne doit pas lui faire beaucoup plaisir. C'est un peu la logique de lutte des classes. Vous n'en êtes plus vraiment là, le Parti socialiste aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'accompagnement du capitalisme.
Je pense qu'il y a des tendances au sein du PS, comme partout, et puis tout ce qu'on a essayé de déposer, par exemple l'initiative pour les retraites anticipées, c'est une des choses qu'on fait pour les travailleurs, effectivement, en fin de parcours salarié, mais nous, ce qu'on défend, c'est les salariés en général, qui deviennent, à un moment donné de leur vie, des parents, et donc on a une politique familiale, qui sont des subventionneurs des assurances maladie avec leurs primes trop exagérées et trop hautes. Et là, c'est le POP, dans le canton de Vaud, qui avait lancé l'initiative pour une caisse unique, et puis ça a été repris au niveau suisse. Il faut des élus dans les parlements pour pouvoir défendre ce que nous défendons. Et ça, ma foi, il faut convaincre les électeurs. Et les salariés, c'est plus l'ouvrier d'Épinal, parce que ceux-là, ce sont aujourd'hui des étrangers qui ne votent pas. Même les bobos, même les banquiers, enfin les gens qui travaillent au guichet des banques doivent pouvoir avoir aussi des salaires. Mais évidemment, c'est une problématique qui est large.
Julien Sansonance, ça vous convainc ce portrait que dresse de l'électorat Adam Ara, votre partenaire socialiste?
Mais écoutez, je dois dire qu'effectivement, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Adam Ara. Je crois qu'aujourd'hui, au 1er mai, c'est ni le POP ni le Parti socialiste qui défilent, mais bel et bien les travailleuses et les travailleurs, sous les bannières des syndicats. Et puis je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de ne pas se tromper d'adversaire. Le POP ne se trompe pas d'adversaire. Il s'agit de construire une unité la plus large possible contre le véritable adversaire aujourd'hui des travailleurs, des salariés, qui est naturellement l'UDC, qui porte des coups extrêmement dur, extrêmement claquant contre les intérêts de la plus grande majorité de la population. Maintenant, quand le Parti socialiste prend des positions qui sont des positions progressistes, et naturellement c'est la plupart du temps le cas, Dieu merci.
Vous sens plus méchant tout à coup.
Non, mais naturellement qu'on est évidemment à leur côté quand ça se passe comme ça. Mais quand le Parti socialiste, ou plutôt certains de ses dirigeants, c'est important, c'est plutôt certains de ses dirigeants qui prennent des positions qui vont systématiquement à l'encontre de l'intérêt de la population et des travailleurs. Je pense à ce qui s'est passé au niveau de CFF Cargo avec M. Lönnberger, qui systématiquement se met en contradiction avec l'intérêt des travailleurs. Et ben à ce moment-là, le POP ne peut pas l'accepter, elle ne se prive pas de le faire savoir à ses alliés socialistes.
Adam Ara.
Écoutez, le Parti socialiste, je crois, a aussi fait ses preuves dans cette histoire de CFF Cargo, puisque c'était les premiers députés nationaux à être aux côtés des travailleurs, pour ne pas les nommer, c'est Marina Carobbio et Fabio Pedrazza, deux socialistes qui étaient à leur côté avec d'autres.
Pedrina,
excusez-moi, l'absus révélateur. Merci. Et voilà, donc je crois qu'effectivement, il suffit pas de se focaliser sur des personnalités. Moi, je peux prendre l'exemple aujourd'hui, alors si on veut, de l'extrême gauche ou des Verts. Dans le canton de Vaud, par exemple, l'extrême gauche a lancé une initiative sur le salaire minimum sans écouter les partenaires que sont effectivement le PS et d'autres dans le canton, avec un texte mal ficelé et qui va se casser la figure. J'espère pas, hein, mais si c'est le cas, ils vont enterrer pour 5 ans cette histoire et c'est les travailleurs qui trinquent. Donc effectivement, il y a des appréciations de timing et de textes différents, le but est le même. Donc moi, j'appelle plutôt à l'unité de travail plutôt qu'à se taper dessus, parce qu'à la fin, c'est les travailleurs qui trinquent.
Et puis Julien Sansonance, c'est un peu de stratégie, ça fait pas de mal. Les socialistes, ouais, ils sont bien contraints, hein, ils sont tout de même un peu plus importants que l'extrême gauche. Ils ont des leviers de pouvoir. C'est forcément plus compliqué que pour vous, qui pouvez un peu critiquer, être l'aiguillon à l'extrême gauche.
Oui, absolument. J'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit Madame Marat à propos du salaire minimum. J'écoutais aujourd'hui, je crois que Monsieur Levrat, nouveau président du Parti socialiste, a été très en faveur du salaire minimum. Absolument. L'USS, au niveau suisse, se bat effectivement au salaire minimum. Ouais. Moi, je peux simplement pas laisser dire qu'on n'a pas convié toutes les forces de progrès social vaudois autour de notre texte. Maintenant, il y a effectivement, vous l'avez dit, des différences.
Les syndicats ont refusé de vous suivre dans le canton de Vaud estimé que le texte était mal ficelé. Mais principe même du salaire de base, tous d'accord, effectivement, vous le relevez, le président du Parti Socialiste Suisse, c'était son leitmotiv aujourd'hui, mais je crois qu'effectivement, il y a des moyens à appliquer et des textes à voir, donc nous n'apprécions pas dans le canton de Vaud.
Tous les syndicats ne sont pas opposés, hein, puisqu'on a, il y a Sud qui a lancé avec nous
également Comédia. On retrouve Pedrazza, donc.
Voilà, donc effectivement, mais moi je doute pas que le Parti Socialiste, si les 12 000 signatures sont récoltées, se joindra à nous et puis essayer de construire une unité la plus large possible. Effectivement, je crois qu'on est tous d'accord que le salaire minimum aujourd'hui, c'est une mesure qui est tout à fait indispensable pour lutter contre la sous-enchère salariale.
Alors Adamara, revenons peut-être à la symbolique du 1er mai, les travailleurs. Est-ce que c'est pas aujourd'hui un peu dépassé pour un parti qui veut séduire et dont la majeure partie de l'électorat est constituée, allez, on va redire le mot mythique, des bobos, des classes les plus instruites de la société. En fait, eux ne sont pas du tout sensibles à ce que vous direz aujourd'hui sur les tribunes dans ces discours enflammés.
Moi, je crois que notre électorat se compose de deux parties essentiellement. Il y a les travailleurs. Il faut voir qui sont les travailleurs aujourd'hui. Ce sont effectivement des infirmières, ce sont des enseignants, ce sont des aides auxiliaires dans le métier de la santé. Ceux-là votent encore pour nous. Il y a une très forte, effectivement, partie de la classe moyenne qui vote pour nous. Mais je crois que, ou classe moyenne supérieure, alors soit c'est des gens qui sont quand même sensibles à la solidarité entre les personnes et les travailleurs, soit ce sont des gens, je le répète, qui ont aussi des difficultés. Je pense de nouveau aux assurances maladie qui arrivent à peine à payer ces primes ou d'autres choses, ou qui ont besoin d'allocations familiales plus importantes. Donc je crois qu'il est faux de dire les travailleurs ne sont pas intéressés par le discours des 1er mai que proposent le PS ou les gens d'extrême gauche ou les syndicats.
Par contre, il y a des travailleurs qui sont intéressés par d'autres discours, plutôt du côté de l'Albis Gutli. Hein. Toutes les études le montrent. L'électorat ouvrier aujourd'hui vote UDC majoritairement. Ça, c'est tout de même un constat d'échec incroyable pour vous, Julien Sansonnens.
Mais écoutez, vous avez malheureusement raison. Effectivement, l'électorat ouvrier est très sensible au discours de l'UDC, qui utilise de vieilles ficelles qui sont connues et puis qui ont donné les désastres qu'on sait, au terme de sécurité, en termes de montée des catégories de la population les unes contre les autres. Maintenant,
Vous avez aussi quelques habitudes dans ce domaine, non, Julien Sansonnens?
À quel niveau? De monter les gens les uns contre les autres?
Disons de séduire les foules, de motiver l'électorat par de grands discours.
Bon, bah écoutez, ça c'est peut-être je sais pas, j'ai pas connu, disons ça, forcément dans le POP d'aujourd'hui. Mais maintenant, effectivement, quand on entend les gens des classes, disons les gens qui sont pas forcément riches, qui votent pour l'UDC, alors que c'est systématiquement un parti qui n'a jamais fait une seule proposition en faveur des travailleuses et des travailleuses, c'est effectivement assez désastreux. Et on voit sur l'article sur la santé, par exemple, qui sera soumis bientôt en votation, c'est de nouveau les petits qui vont trinquer.
Adamara, un dernier mot.
Mais la difficulté pour nous, je crois, à gauche, c'est d'essayer de rendre sexy la vérité. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre la dernière législature, le seul parti qui a voté contre la lutte du travail au noir, c'était l'UDC. Or, cette loi, elle protégeait les travailleurs. Donc, c'est difficile de rendre attrayant des lois. Ça, c'est sûr dans le message. Mais je crois que, justement, les discours du 1er mai faits par le PS, l'extrême-gauche ou les syndicalistes, essaient de mettre en avant ces éléments-là.
Qui incarne au mieux la défense des bas salaires lors des discours du 1er mai? Débat ce soir entre Adamara, conseillère nationale socialiste vaudoise, et Julien Sansonnens du POP vaudois. Et puis on a parlé dans ce débat du salaire minimum à 3500 francs. Faut-il introduire un tel salaire minimum, comme l'a demandé Christian Levrat dans son discours du 1er mai? Vous pouvez voter dès maintenant sur notre site monélection.ch. Et pour les dernières minutes de ce forum, nous accueillons Aline Virda. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, un nom, une voix bien connue des auditeurs de la radio romande, mais ce n'est pas en tant que journaliste qu'on vous reçoit ce soir, mais comme auteur d'un livre, « Là où je vais », qui vient tout juste paraître chez Labor et Fides. Alors, ce livre s'appelle « Là où je vais », pas « Là où j'aimerais aller » ou « Là où je voudrais être ». On sent de la détermination dans ce titre, en tout cas.
Il y a certainement de la détermination parce que je me suis mise en scène en fait en décidant dans ce livre de m'accorder 3 mois à la montagne où j'aime aller et où je veux aller, et 3 mois à la montagne pour lire la Bible, qui est un livre que je veux lire et que je lis et que j'aime lire par-dessus tout.
Mais qu'est-ce que vous trouvez dans la Bible? Qu'est-ce que vous recherchez dans la Bible, Aline Wirda?
Ouh là là, qu'est-ce que je trouve et qu'est-ce que je cherche? Je trouve tout et je cherche tout. Mais surtout, je cherche. Je lis des choses qui nous parlent de nos origines. Je lis des choses qui nous parlent de quelqu'un qui m'accompagne décidément, quotidiennement et toujours dans ma vie et qui me fascine, qui est quelqu'un que je ne vois pas, qui est quelqu'un que je ne peux même pas nommer parce que c'est même pas quelqu'un. Et cette recherche de l'essence même de ma vie, et de la vie de tout le monde d'ailleurs, me passionne.
Mais derrière cette recherche, il y a aussi une revendication, une sorte de révolte. Hein. Vous êtes assez sévère envers l'Église catholique, la machinerie vaticaneste qui nous abreuve de ses dictats, ces vieux hommes vêtus de pourpre, violet, noir ou blanc, qui s'arrogent cette autorité souveraine sur 1 milliard de croyants. Vous réglez des comptes aussi un petit peu avec l'Église?
Alors, je ne sais pas si je règle des comptes, mais disons ce que je fais surtout et ce qui m'anime surtout, en l'occurrence vis-à-vis de l'Église catholique, c'est une immense colère parce que j'ai le sentiment, d'une certaine manière, qu'il y a du contre-message en ce moment dans le message du Vatican et de l'Église catholique en tant que hiérarchie. Je ne parle pas du tout de l'Église en tant que des croyants et des pratiquants, parce que ceux-là, certainement, sont des témoins comme ils peuvent ou ils peuvent. Mais la hiérarchie nous bassine avec tellement d'impératifs que moi j'essaie vainement de chercher dans l'évangile et dans les textes, dans les évangiles et dans les textes, et que je ne trouve pas. J'ai absolument le sentiment qu'il y a eu un goût du pouvoir et un besoin de puissance de la part de l'Église catholique au cours de l'histoire, et que avec ses dictates, elle a imposé son pouvoir qui n'a rigoureusement rien à voir avec le message fondamental qui est le seul qui m'intéresse.
Mais alors dans cette démarche de retour vers le texte, retour vers la Bible, c'est une démarche très protestante au fond. Alors finalement, on pourrait vous rétorquer, mais vous publiez aussi dans une maison protestante, Labor et Fides. Vous êtes devenue protestante, Aline Wirda?
Je ne suis pas du tout devenue protestante. Ma maison est la maison catholique. Ma famille est la famille catholique, absolument. Il y a des choses dans l'Église catholique auxquelles je ne renoncerai pas. Mais je me sens plus à l'aise en ce moment avec des chercheurs, avec des pasteurs, avec des analystes protestants.
Je disais, ce titre marquait une certaine détermination. On sent aussi une envie de liberté, un besoin de liberté chez vous.
La liberté de quoi?
De penser.
Alors ça, en tout cas. Ben, en tout cas, parce qu'évidemment que quand on a été éduqué catholique, dans une famille catholique, on n'a pas ce sentiment de liberté que donne tout d'un coup le fait de se référer au texte et de se dire « j'ai le droit de penser librement quelque chose de ces textes et pas de penser ce qu'on m'aura dit ». Qu'il fallait penser.
Alors ce voyage, ce livre, voyage de 3 mois, séjour de 3 mois avec la Bible, ça vous a changé aussi, Aline Wirda?
Alors, je ne suis pas allée 3 mois en montagne, c'est une espèce de fiction organisée autour de mon envie de lire la Bible, mais c'est sûr que je lis la Bible, que je continue de lire les commentaires et que ça continue de me passionner. Il n'y a pas de rupture là-dedans.
Mais rassurez-nous, ça n'est pas une exégèse théologique, c'est un récit, il y a une histoire.
Il y a une histoire, il y a un récit. Je ne suis absolument pas théologienne, je ne sais pas l'hébreu, je ne suis absolument pas spécialiste, mais je me régale avec tous ceux qui savent.
Aline Wirda, donc auteure de Là où je vais, un livre qui vient de paraître chez Labor et Fides. Vous serez au Salon du Livre, qui était en ce moment?
Dimanche après-midi, je signe de 14h à 18h au stand de Labor et Fides.
Et nous y serons demain pour une édition spéciale largement consacrée au livre et à l'édition Forum en direct et en public demain sur le stand de la Radio Romande. Et juste avant 19h, on prend encore des nouvelles du temps. Avec Angélique Bergerat.
Des nuages d'altitude arrivent de plus en plus nombreux à partir de l'ouest. Et demain, nous pourrons encore les apercevoir, mais le soleil prédominera et nous accompagnera tout au long de la journée. Dans l'après-midi, quelques cumulus de beau temps se développeront en montagne. En ce qui concerne les températures, elles seront assez agréables. Au lever du jour, elles avoisineront 7 degrés sur le plateau et les maximales seront proches de 18 degrés dans l'après-midi, voire 21 en Valais. Nous trouverons 0 vers 2200 mètres et le vent d'ouest sera bien soutenu en montagne. Nous profiterons d'un temps ensoleillé et de plus en plus doux durant ce week-end. Samedi, quelques nuages élevés accompagneront le soleil et dimanche, des cumulus de printemps se formeront sur les reliefs. Les températures pourront s'élever jusqu'à 22 degrés sur le plateau.
La météo, avec le Garden Centre Schilliger et ses meubles pour jardin et terrasse.
Dans ses chroniques de la société hongkongaise qu'il signe sur la première, Gérard Henry s'intéresse aux petites choses de la vie.
Le 23e Festival international du film de Hong Kong a mis en valeur l'importance croissante du film documentaire en Chine.
Ces chroniques hongkongaises qui sortent sur papier saisissent sur le vif la réalité de cette ville qui ne dort jamais. Présent au Salon du Livre et de la Presse de Genève, il en fera le croquis au micro de Patrick Ferla dans Presque Rien sur Presque Tout, vendredi 2 mai à 13h sur la première. Presque Rien sur Presque Tout, avec Gérard Henry, en direct et en public de notre stand RSR-TSR, rue Charlotte Brontë, au Salon du Livre de Genève. Infotrafic RSR,
avec Café Kikodoro et son café soluble.
La circulation s'écoule sans difficulté sur les principaux axes routiers romands et sur l'axe Lucerne-Chiasso. Le bouchon constaté devant le portail nord du tunnel du Gothard s'est maintenant résorbé. C'est la fin de ce forum. Sandro Lichy, Gilbert Jeanneret, Thierry Galochet ont collaboré à cette édition. Après les informations de 19h, Radio Paradiso, 19h sur la première. Excellente soirée.
RSR, Alexandre Abbé.
L'Australien Robbie McEwen a remporté au sprint la deuxième étape du Tour de Romandie disputée entre Moutier et Fribourg. Le Suisse Markus Berg termine quatrième. Le Turgovien Michael Albasini conserve son maillot jaune. Patrick Delletreau.
On l'avait prédit, Robbie McEwen pouvait remporter cette étape de Fribourg. Il l'a fait très intelligemment. L'Australien, l'un des plus grands sprinters au monde, n'avait de véritable adversaire que son second du jour, Daniele Benati, l'Italien. Mais celui-ci n'avait plus le soutien de son équipe dans les derniers kilomètres. Les Sinos Lotto avaient beaucoup, beaucoup travaillé pour revenir sur les échappées parties ce matin après 4 kilomètres déjà. On a beaucoup vu également Alexandre Mauss dans le final de cette étape. Il avait les jambes, comme on dit. Ça reste prometteur pour l'étape de montagne de samedi. Au général, Michael Albasini conserve le maillot jaune avant le contre-la-montre de Sion demain. Et on a vécu aujourd'hui une très belle étape qui a été un véritable succès populaire et qui pourrait se confirmer en Valais ces deux prochains jours.
C'est un classique du 1er mai. Des violences ont éclaté en fin d'après-midi à Zurich entre extrémistes de gauche et forces de l'ordre. Des affrontements qui ont attiré de nombreux curieux. Delphine Gendre était sur place.
C'était peu après 17h quand les forces de l'ordre ont réussi à encercler tout le monde, toutes les personnes présentes, autant les casseurs que les simples observateurs. Les ont encerclés dans des ruelles autour de d'Helvetia Platz afin d'éviter que la situation ne dégénère encore plus qu'elle n'avait déjà dégénéré et surtout afin de procéder à des contrôles d'identité. Mais contrairement à l'année passée, il n'y a pas eu de gros dégâts matériels, en tout cas pas d'après ce que j'ai pu voir. Il y a quand même eu des feux au milieu de la Langstrasse et peut-être quand même quelques vitrines endommagées. Mais la situation était quand même très chaude, donc avec ces casseurs qui ont lancé des pierres et des bouteilles.
En marge de ces débordements à Zurich, une voiture a foncé dans la foule en début de soirée, faisant 2 blessés. L'un d'eux est gravement touché. Le drame s'est déroulé sur la Langstrasse. L'automobiliste a ensuite pris la fuite. Une manifestation anticapitaliste réunissant quelques 200 personnes a également dégénéré à Lausanne. C'était vers 17h. Après avoir défilé dans le calme, des activistes ont brisé les vitres d'un fast-food du centre-ville. Les échauffourées se sont poursuivies sur la place de la Riponne, mais le calme semble être revenu. Sur le plan politique, les orateurs du 1er mai ont appelé à continuer la lutte pour améliorer les conditions de travail. L'exigence d'un salaire minimal à 3500 francs a notamment été au centre des discours de la fête du travail. Très souvent cités en exemple dans les différents discours, les anciens grévistes des ateliers CFF Cargo de Bellinzone ont répondu présents. Ils se sont mêlés aux quelques milliers de personnes qui ont défilé ce matin dans les rues de la capitale tessinoise. En Israël, les sirènes ont retenti pendant 2 minutes ce matin dans tout le pays, en hommage aux 6 millions de juifs assassinés par les nazis, en ce jour du souvenir de la Shoah. Hier, le président israélien Shimon Peres a établi une comparaison entre le génocide perpétré par les nazis et la menace que fait planer l'Iran sur Israël. À Jérusalem, Frédéric Barrère a recueilli le témoignage d'un Israélien.
C'est nécessaire de rappeler le souvenir de la Shoah. Et je pense bien sûr aux 6 millions de victimes qui ont été assassinées pendant la Shoah. Mais ce qui est très important, c'est pour l'extérieur, je dirais, c'est-à-dire pour les autres pays qui ne sont pas Israël. Tout le monde sait que le président d'un État qui s'appelle l'Iran, qui avoue ouvertement qu'il veut détruire Israël. Et c'est devenu encore plus important aujourd'hui, je pense, de rappeler que c'est un événement qui a existé et qui doit être rappelé aux nations, à toutes les nations, et aussi pour que ça ne se reproduise pas.
La Fédération Suisse des Communautés Israélites a élu aujourd'hui à sa présidence l'avocat zurichois Herbert Winter. Les délégués de la Fédération ont voté une résolution à l'unanimité dénonçant fermement la récente visite de Micheline Calmiré en Iran. Ils accusent la conseillère fédérale d'avoir apporté un soutien moral et politique inespéré au président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui a appelé à plusieurs reprises à la destruction.